On va avoir un dernier blog et puis par la suite, là, je vois que vous avez aussi beaucoup pris des notes et il y a certainement beaucoup de personnes qui ont des expériences dans leur propre milieu de travail ou alors des questions par rapport à ce qui a été dit. Donc, pour conclure, on va quand même se demander qu'est-ce qu'on peut ou qu'est-ce qu'on doit faire pour la suite? Qu'est-ce qui est le plus important? Qui veut y aller d'abord? Oui? Oui, oui, Cindy, oui.
Nous, la prochaine étape à l'université, ça va être... Ça fait 5 ans que notre politique est en vigueur. La prochaine étape, ça va être d'entamer une révision de cette politique-là parce qu'on se rend compte qu'il y a des éléments dans lesquels on a mis à l'intérieur que fonctionne, on arrive sur la réalité terrain, là, puis ça fonctionne tout simplement pas, ou encore qu'on va devoir peut-être, si on les garde, ces éléments-là, peut-être mieux les expliquer, peut-être mieux les détailler. Je pense entre autres à notre fameux statut réputé temps plein, là, qui n'est pas bien compris, autant de la part des professeurs que de la part des étudiants qui veulent avoir qui veulent l'avoir. Donc, ça, c'est une chose. Puis, sinon, par la suite, bien, il y a tout plein d'initiatives aussi. Une fois qu'on a cette politique-là, il y a tout plein d'initiatives, là, comme que je dis, qui se sont peut-être développées plus localement ou encore qui ont été mises de l'avant peut-être davantage par notre association étudiants-parents que je pense que comme institution, on doit peut-être s'approprier puis que ça soit, qu'on fasse un plus grand déploiement à ce moment-là. T'sais, que ce soit pour la question des stages, que ce soit peut-être même pour la question des choix de cours aussi. Ça, c'est un élément qui nous a été apporté par notre association étudiants-parents. Est-ce que dans des cours où ce qu'il y a, dans un cours où il y a multiples groupes, est-ce que les étudiants-parents pourraient, par exemple, avoir la priorité d'un choix de cours? Fait que, par exemple, si un cours se donne en matin, en après-midi et en soirée, bien, est-ce que l'étudiant-parent, là, sans que ce soit nécessairement une course à la première arrivée, premier service, que c'est tout de suite, en fait, là, que ce soit, est-ce que nos étudiants-parents, à ce moment-là, est-ce qu'eux pourraient avoir une priorité dans les choix de cours? Est-ce qu'on pourrait ouvrir la période d'inscription, par exemple, quelques jours avant, 48 heures avant, pour leur donner la chance de s'inscrire d'avoir un horaire finalement peut-être beaucoup plus facilitant. Tout de suite, ça ne se fait pas à l'Université Laval. En tout cas, j'ai pas eu vent qu'il y a des programmes qui avaient mis ça de l'avant. Mais est-ce que ça peut faire partie des réflexions? Puis si ça se fait partie des réflexions, bien, à ce moment-là, est-ce que ça peut être appliqué de façon globale sur le campus? Parce que nous, c'est toujours ça l'affaire, là, c'est qu'on est gros. Donc, puis les facultés sont aussi... comme qu'on est gros, bien, c'est très difficile, nous, d'arriver... Nous, là, on a ce défi-là aussi, c'est d'arriver et de dire comment est-ce qu'on applique tout ça. On ne peut pas faire du mur à mur nécessairement. Mm-hmm. Là,
et donc, en assurant l'équité, que les gens aient le sentiment d'équité, en tout cas. Hein?
Aussi, parce que si on fait ça aussi, il faut penser aussi aux autres étudiants, parce que c'est souvent ça qu'on se fait répondre aussi. C'est, bien là, si eux, je leur donne quelque chose, c'est, bien là, je pénalise la majorité des étudiants. Oui, mais pas nécessairement. Puis là, c'est là où ça doit être mieux expliqué. Donc, je pense qu'on est rendu à faire peut-être cette étape-là à l'Université Laval, puis ça va peut-être être ça, éventuellement, qui va être... Mm-hmm. Mais bon, je m'avance.
À suivre.
À suivre, exactement. À suivre.
Oui.
Chez nous, on vient de faire le tour de roue. Je vous disais que c'est en octobre 2023 que la politique a été... diffusé auprès de la population étudiante. Déjà, ce qu'on constate, là, dans les prochaines étapes, il faut qu'on documente mieux les mesures qui sont offertes aux étudiants. En ce moment, ce sont les personnes étudiantes qui contactent eux-mêmes soit le département, soit les professeurs, puis qui prennent des arrangements. Nous, on est informés seulement si la personne étudiante n'est pas satisfaite de ce qui est proposé. Donc, en ce moment, on n'a pas de données sur il y a combien de mesures de soutien qui ont été accordées, il y a combien de congés qui ont été accordés. Donc, ça, c'est notre prochaine étape. Il faut qu'on documente pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette année-là. Ça a été quoi la réalité terrain au niveau académique. On veut aussi documenter, bien, avec le projet pilote, assurément, on documente nos actions. Puis, je vous ai parlé tantôt, là, on va offrir des certificats cadeaux, puis... On est un petit peu en dehors de la boîte, c'est-à-dire qu'on ne propose pas des activités sur le campus à nos personnes étudiantes. On leur propose complètement autre chose dans leur milieu, dans leur réseau. Est-ce que ça répond à leurs besoins? Donc, lorsqu'ils vont participer à ce concours-là, on leur pose des questions qualitatives. Justement, est-ce que tu sens que cette mesure-là te soutient en tant qu'étudiant-parent? Est-ce que ça fait une différence pour toi? Donc, aller chercher ce pouls-là pour savoir cette grande action-là qui va quand même coûter des sous, qui va quand même coûter des ressources, qui va mobiliser quand même des gens. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on est dans la bonne direction ou on devrait se replier vers la vie étudiante et vraiment se recentrer dans chaque centre et campus? Puis si c'est le cas, on fait quoi avec notre formation à distance? Donc, on est vraiment à documenter qu'est-ce qu'on fait. C'est vraiment ça, notre prochaine étape. Et l'autre chose, c'est la reconnaissance du statut temps plein. En ce moment, elle n'a pas suivi au niveau de la fondation de l'UQAT. Pourquoi ça n'a pas suivi au niveau des bourses? Parce que la plupart du temps, ce sont des donateurs privés. Et eux, ils ont des critères. Ils disent, ben, on veut donner à un étudiant en santé, temps plein, blablabla. Bla, bla. Donc, en ce moment, il y a un travail politique à faire pour que les donateurs privés aient aussi envie de suivre les valeurs de l'UQAT et de reconnaître un temps plein, un étudiant à temps plein, même s'il est à temps partiel. Parce qu'on a des belles bourses là, pour nos étudiants dans notre concours de bourse persévérance. On a environ 20 000 $ qui est offert chaque année en conciliation famille-études. Mais souvent, c'est pour des étudiants à temps plein, vraiment temps plein. Donc, on a un travail politique à faire. On est en dialogue avec la Fondation qui, eux, vont devoir contacter chaque donateur pour faire ce travail-là. Donc, sur notre planche, là, c'est ça qu'on a dans la prochaine année.
Je pense que c'est intéressant. Et là aussi, on peut faire le parallèle avec les entreprises. C'est bien d'offrir des mesures, mais il faut savoir si elles sont efficaces. Puis ça, très souvent, on leur dit, bien, il faut d'abord faire l'analyse des besoins, établir les mesures possibles. Mais une fois que vous offrez peut-être un beau... il y en a d'ailleurs qui nous montraient une belle brochure avec plein de mesures, mais en fait, elles n'étaient pas nécessairement les plus efficaces, compte tenu soit de l'âge des personnes, soit justement de leur origine. On évoquait les familles transnationales, internationales, c'est un autre défi. Donc, effectivement, de quand même documenter et chercher les mesures efficaces, tout à fait. D'autres éléments sur l'avenir? Qu'est-ce qu'on fait?
Oui, moi, je peux continuer sur là où est-ce qu'on en est, nous, au CSPE, vu qu'on vient d'obtenir une politique pour laquelle on se bat depuis 15 ans, 14. Et ben, pas moi personnellement,
pour
mais...
la persévérance, notamment. Ben oui, j'étais en contact avec d'autres personnes avant, ouais. Longtemps.
Et c'est sûr, ça pose des questions sur notre rôle en tant que groupe étudiant. J'ai mentionné l'importance qu'on avait eue pour obtenir une politique, mais maintenant, il faut qu'on se redéfinisse à quelque part, parce que jusqu'à maintenant, on a offert des services pour pallier au fait que l'institution ne prenait pas en compte l'existence des enjeux de conciliation. Maintenant, maintenant qu'on a une politique, est-ce que ça fait que le groupe d'étudiants de parents aux études n'a plus de raison d'être? Ben, la réponse est non, évidemment. Mais on va dire pourquoi. Il y a des choses que l'université peut faire. Par exemple, des sorties cabanes à sucre, l'université peut l'organiser. Pour l'instant, c'est nous-mêmes qui le faisons. Ouvrir les résidences étudiantes aux parents avec des enfants, ça aussi, c'est pas nous qui pouvons le faire. Offrir des services de manière générale, c'est quelque chose que l'université peut faire. Mais il y a des choses que ce n'est pas une personne employée par l'université qui peut faire. Il y a des trucs et astuces informelles qu'une personne de l'institution ne peut pas. On n'a pas le droit de dire qu'on peut faire. Mais il y a des choses qui se font vraiment dans la socialisation étudiante. Et ça, c'est un rôle très important qu'a en tout cas notre comité de parents dans la socialisation étudiante, parce que quand on a des enjeux de conciliation, on a dit la vie sociale passe en dernier, mais la vie sociale, elle a aussi, c'est pas un à côté des études, elle a une part importante dans la réussite des études. Moi, si je m'étais pas impliquée au CSPE, qui m'a permis de rencontrer des personnes au cycle supérieur alors que je commençais mon bac, j'aurais jamais eu le sentiment d'appartenance que j'ai eu pour l'UQAM et j'aurais pas eu toutes les choses qu'on apprend, qu'aujourd'hui je vois des personnes qui apprennent en cours de méthodologie à la maîtrise alors qu'ils commencent leur deuxième année de maîtrise, puis qu'ils disent « voyons donc pourquoi on m'a pas appris ça avant ?» Mais moi je le savais dès le début de mon bac parce que j'ai été socialisée. Alors que quand on est parent aux études, souvent, c'est ce bout-là qui manque. Le sentiment d'appartenance et la socialisation. Donc, puis nous, comme parents aux études, on peut se dire entre nous, par exemple, on propose, c'est déjà arrivé qu'on écrive à des profs, qu'on leur donne des modèles de plans de cours comme « Hey, j'ai vu une chargée de cours qui a ça dans son plan de cours qui dit que les enfants sont bienvenus en classe, par exemple, tant qu'ils ne dérangent pas le déroulement. » Regardez, je vous ai pré-mâché le travail, j'ai vu une prof qui a fait ça. Si ça vous tente de le mettre, Moi, individuellement, de temps en temps, j'envoie ça à des profs dont je me dis qu'ils pourraient peut-être être ouverts. Ça participe à la sensibilisation. Il y a une part de la sensibilisation qui ne peut pas être faite par l'administration, qui a besoin d'être faite par les personnes sur le terrain. Puis comme on a dit, il y a beaucoup de parents aux études qui sont dans l'idée d'avoir 90% minimum, puis qui sont à fond. J'en fais partie. Donc, je m'en permets aussi. J'arrive à chaque début de session. J'ai moins peur de la stigmatisation parce que je le sais que j'ai de bons résultats. Donc, j'arrive à chaque début de session. J'écris à mes profs, sachez que je suis parent aux études, j'ai cet enjeu. Il pourrait y avoir des moments dans la session où ce que j'ai besoin d'accommodement. Je tenais à vous le dire en amont. Et je tiens à vous dire aussi que je suis à fond et que mes études sont ma vie et que je mourrais pour compléter ce cours.
Ça, c'est bien. Quel engagement. On adore ça.
Ça passe très bien auprès des profs parce que de un, ça leur mâche le travail. Ils n'ont pas besoin de faire l'exercice. Ils en ont plein les bras, eux autres aussi. Ils ont une réalité. Eux-mêmes ont des enjeux de conciliation. Ils n'ont pas envie de devoir faire le travail de réflexion, de juger qu'est-ce qui est légitime et qu'est-ce qui n'est pas légitime. Puis comment je distingue ces demandes d'accommodement de « mon chien a mangé ma copie hier ». Donc, ils aiment beaucoup être prévenus en amont plutôt que d'avoir à le gérer une fois qu'on est le jour du rendu et que toutes les personnes étudiantes écrivent en même temps pour dire qu'ils ont ceci ou cela. Donc, souvent, ça marche bien et ça fait de la sensibilisation. Donc, ce qu'on fait aussi au CSPE, c'est qu'on a un modèle de lettres qu'on fournit aux parents aux études. Ce n'est pas l'administration qui va venir te dire « voici un modèle de lettres à envoyer à tes profs ». Je pense que ce serait un peu déplacé. Mais entre nous, entre parents aux études, on peut s'envoyer un modèle de lettres et dire « bon, remplis, dis c'est quoi ton programme, dis c'est quoi ton cours, puis change ta situation, mais voici un modèle qui fonctionne ». Et qui est généralement apprécié par les profs. Sur la question des enfants, de la présence des enfants en classe, quand on a eu la grève des écoles l'an passé, moi, j'ai amené ma fille à l'Uni à tous mes cours. C'est pas tous les enfants qui peuvent faire ça. Il y a beaucoup d'enfants que c'est juste pas possible et les parents ont besoin d'avoir quelqu'un de compétent pour les garder, puis ils ont besoin d'avoir leur moment de concentration en classe. Mais quand on a un enfant dont on sait... Moi, ma fille, je la laisse dans un coin avec un livre, je la reprends 3 heures après, elle n'a pas bougé.
Ah, tiens.
C'est ça.
Ma mère me disait que ma fille faisait ça, puis qu'elle était unique, qu'elle n'avait jamais vu ça. C'est bien, il y en a deux.
Mais il y a des parents, ils savent que leur enfant est tout à fait gérable en classe, puis ils sont habitués de l'amener partout, mais n'osent pas. Donc, il y a un enjeu de honte, en fait. On a parlé du stigma. Quand on est parent aux études, on a l'impression qu'on passe son temps à s'excuser. On s'excuse auprès de l'école, on s'excuse auprès de nos enfants de ne pas être assez présents, on s'excuse auprès de l'employeur d'avoir des études, on s'excuse auprès des études d'avoir un enfant et d'avoir un employeur. On s'excuse tout le temps et on a honte d'exister quasiment. Mais à un moment donné, faut se dire qu'on n'a pas à avoir honte. Puis, faudrait quasiment faire une marche de la fierté, là. Arrêter de s'excuser. Puis, écrire au prof... Mon enfant sera présent en classe demain. C'est toujours apprécié par les profs d'être au courant en amont, mais je ne demande pas la permission personnellement. Là. J'écris, je tenais à vous aviser, mon enfant sera présent en classe, je vous assure qu'elle ne va pas perturber le déroulement. Point. Prof est au courant. Ça m'est même arrivé, comme c'était la grève, et ça arrive aussi quand il y a des tempêtes de neige, école fermée, j'avise mes profs, je leur écris, puis peut-être que ce serait, si ça vous tente, vous pourriez faire un appel sur le forum Moodle à toutes les personnes du groupe, leur dire que c'est possible, si leurs enfants ne perturbent pas la classe, que vous êtes ouverts à ce que leurs enfants assistent. Puis ça, il y a des profs qui sont très ouverts, qui pensent que c'est évident et que c'est écrit dans leur face. Mais la plupart des personnes étudiantes n'osent pas. Surtout, ça a été mentionné, les personnes issues de l'international ne vont pas oser demander parce qu'on passe notre temps à demander et à quémander. Et ça, c'est humiliant.
Oui, puis en fait, je pense que surtout la réalité des chiffres, le fait qu'il y ait autant de parents étudiants aujourd'hui, de personnes aussi qui sont proches aidantes. Donc, tout ça mis ensemble, ça finit par faire beaucoup de personnes qui ont quand même des responsabilités à l'extérieur. Donc, je pense qu'effectivement, le temps de la honte ou de tout ça, c'est... ça devrait être du passé. Mais on le comprend parce que dans toutes les organisations, c'est des situations qu'on peut observer également dans les entreprises. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous vouliez ajouter? Oui? OK. Donc, un élan avec le micro.
Oui, c'est vrai. À l'autre bout du spectre, encore une fois, mais pour moi, en fait, c'est de se rappeler à quel point, en fait, déjà, si vous êtes parents, vous êtes formidables. Si, à la base, on pense vraiment qu'aujourd'hui, on prend l'angle de la famille. Idéalement, on se dit qu'un individu, un jeune, un enfant, un adolescent, qui a ses deux parents, que les deux parents ont des pratiques parentales complémentaires, cohérentes, qu'il y a de la bienveillance dans la maison, on se dit qu'il y a des ingrédients qui sont déjà optimales. Si je prends la même figure, puis je nous métaphorise notre société, c'est la même chose. Fait que dans le fond, pour moi, un individu qu'on veut, on se penche sur sa conciliation de travail ou sa conciliation de travail-famille plus tard, c'est de s'assurer qu'il soit en mesure de bien gérer son temps, ses priorités, pour réussir à équilibrer tout ça, être dans un bien-être le plus optimal possible malgré tous ses rushs et ses stress, de pratiquer sa gestion des priorités. Puis on le sait, une fois qu'on est adulte, on ne fait que ça, même en étant professionnel, à chaque jour, on révise notre liste. Donc, ça se travaille dès le plus jeune âge. Puis, si tout le monde qui est dans la vie de ces jeunes-là, tout au long de leur parcours, là, de genre 12 ans à genre 35 ans, bien, vous êtes les plus, souvent les plus, le milieu scolaire ou le milieu de l'établissement entre les enseignements supérieurs, vous passez beaucoup de temps avec ces gens-là. Et le temps que vous passez, c'est dans un contexte éducatif, fait que vous avez à cœur, en plus, par votre profession, leur réussite. Mais ces jeunes-là ont d'autres temps dans la journée, sont avec leurs amis, leurs conjoints, leurs enfants, leur famille, leurs amis, leur réseau social, s'ils sont sportifs, sont dans des ligues. Donc, ils ont toute une autre sphère de vie. Quand je parle de l'employeur, c'est ça aussi, s'ils passent 15, 16 heures par semaine ailleurs. Fait que pour nous, là, c'est un grand vœu qui n'est pas toujours facile, mais c'est de se dire, à partir du moment où tous ces gens-là autour vont agir de manière le plus complémentaire, cohérente, qu'on réussit à s'entendre, malgré que des fois, c'est pas facile, puis s'entendre, ça peut autant dire, dans un cégep, entre départements, d'être aligné sur les mêmes choses, d'avoir eu la chance d'avoir des comités ou des rencontres, que c'est pas toujours évident. Mais dans l'optimal, plus les gens se parlent autour de ces gens-là, plus les effets seront cohérents et tangibles sur leur réussite. Fait que c'est un grand vœu pieux qui ça se retravaille parce qu'on est des êtres humains, ça change, on est des groupes, on a du changement de personnel dans nos établissements aussi. Donc tout ça, ça change, mais plus c'est cohérent, plus les jeunes ne sont pas laissés à eux-mêmes en cours de parcours, mieux c'est. Puis moi, j'ai envie de dire aussi qu'on se penche dans notre vie personnelle. On a souvent des amis, des gens qu'on sait qui vivent ces éléments de conciliation-là. Puis des fois, on l'oublie dans le cas à l'extérieur de notre travail, tu sais. On vient comme plus en mode individuel. Puis, ah, ben, il n'est jamais disponible. Hein, mais t'as-tu déjà pensé qu'il vit peut-être ces choses-là? Donc aussi, des fois, on est dur envers nos gens dans notre vie personnelle. Donc, c'est aussi d'avoir cette belle bienveillance-là autour de nous là, pour comprendre que nos amis, nos collègues, nos cousins, whatever, ils ont toute une vie. Puis parfois, c'est pas parce qu'ils ne la nomment pas que c'est pas une pression, une charge de travail dans la semaine, une charge d'intensité ou d'engagement.